Bonjour à tous. Déjà la quatrième émission de Lire et Écrire sur Studio Zef. Comme vous le savez peut-être, cette émission fonctionne comme un atelier d'écriture. Cette fois-ci, je vous parlerai des jeux d'écriture au sein d'un atelier. En second, de l'écrivain Jim Harrison. Et enfin, je vous donnerai une consigne d'écriture pour ceux qui veulent s'exercer chez eux. Comme d'habitude, une adresse mail est ouverte pour recevoir vos textes, que je rappelle ici. Lire et écrire, tout attaché, @studiozef.fr. L'atelier d'écriture est une sollicitation à jouer avec les mots, qui vont former des phrases pour établir un récit. Cela peut paraître évident, mais un court récit doit avoir du sens et rester une fiction. Nous ne sommes pas dans l'écriture d'un journal intime. Nous ne composons pas de chansons, à moins que ce ne soit explicitement une consigne. Il est vivement conseillé de le terminer, ce texte, par une chute. Je conseille, mais c'est une méthode personnelle, de penser à la chute d'abord et d'amener au cours du récit ceux qui écoutent vers celle-ci sans qu'ils puissent la prévoir. Je parle évidemment de ceux qui vont écouter le texte à la fin de l'atelier d'écriture. Pour jouer avec les mots, il existe bon nombre de jeux qui deviennent multitudes grâce aux variantes qu'on peut leur donner. Certains écrivains en ont fait des romans, les plus connus étant Queneau, Vian, Pérec. Georges Pérec a écrit un long diptyque avec pour titre « La disparition », dans lequel la lettre E a totalement disparu. Pérec est membre de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. On peut choisir des lettres dans un jeu de Scrum, au hasard, puis trouver tous les mots possibles avec ces lettres, puis en se servant uniquement de ces mots, faire des phrases qui ont un sens. Attention, ne jamais oublier que nous sommes dans le registre de la fiction. Tout est permis, rien n'est réel. Dans ces jeux, le plus difficile pour les participants est de créer un semblant de sens à des phrases apparemment absurdes. Certains n'y arrivent pas, et c'est dommage, car ces exercices sont salutaires pour aborder d'autres espaces que notre espace immédiat, sortir de la rigidité de notre pensée bloquée par les acquis. Celui qui arrive à se libérer ainsi parviendra dans le monde réel à sortir des chemins battus et inventer d'autres possibilités, tant dans le domaine professionnel que dans sa propre vie. Que nous utilisons le système du dictionnaire. On ouvre un dictionnaire au hasard et on cherche le septième nom commun puis le septième adjectif qui le suit. Ceci plusieurs fois, 5 par exemple. Puis on fait un texte comportant au moins une fois tous les mots trouvés. Le plus drôle est de ne pas donner la définition de ces mots pour rendre le texte encore plus absurde. Un atelier se doit par définition d'être un lieu de créativité. On y invente, on y joue, ce n'est pas une contrainte à ne pas confondre avec consigne, qui reste juste une règle du jeu. Aristote nous enseigne que ce travail ne doit être qu'un loisir, mais que ce jeu nous mènera à l'œuvre digne d'un atelier. Voilà donc quelques suggestions de jeux de mots. Je vous en donnerai d'autres. Comme je vous l'ai dit, on peut en inventer une multitude. Avant de parler d'un des plus grands écrivains, Jim Harrison, une pause musicale.
I was come again, please. Yeah, the ladies were too kind. Cupid, Thunderfrog.
Jim Harrison est un écrivain américain né à Grayling dans le Michigan en 1937 et décédé en 2016 dans l'Arizona. Il vécut principalement à l'écart des villes. Il est passionné de chasse et de pêche. Il aimait aussi la bonne cuisine, dont la cuisine française. La pêche, la chasse, la bonne bouffe sont souvent des passions qu'il partagea dans ses romans avec ses personnages. Dans Un bon jour pour mourir, le héros est un pêcheur qui décide avec un couple d'aller faire sauter un barrage qui empêche les saumons de remonter la rivière. Dans Légende d'automne, Brad Pitt joue le rôle de Tristan Ludlow, qui est pêcheur et chasseur. Dans Wolf, un campeur se perd au milieu de la forêt du Michigan pour mieux se retrouver. Dans Sorcier, des chasseurs pas très nets et de bonnes recettes détaillées quand le personnage principal fait la cuisine. Mais l'autofiction va encore plus loin dans Nord Michigan, avec le personnage principal qui est infirme à cause d'un accident lorsqu'il était enfant. Jim a eu un œil crevé à l'âge de 8 ans lors d'un jeu. Légende d'automne est connue en film donc avec Brad Pitt. Le livre comprend 3 nouvelles, Une vengeance, L'homme qui abandonna son nom et Légende d'automne. Ce qui est génial avec cet auteur, c'est sa capacité à changer de style à chaque livre. Dans les nouvelles de Légende d'automne, le style est simple, le langage correct. Dans Un bon jour pour mourir, les personnages sont déjantés, crus, drogués, alcooliques. Dans La route du retour, il utilise l'ironie grinçante et le langage châtié pour Chien brun, qui par ailleurs est un grand pêcheur. De même, pour tous les personnages, leurs traits sont forcés et presque caricaturaux. Pour moi, celui qui m'a le plus touché, c'est Nord Michigan, qui commence par une anecdote banale où l'auteur regarde un couple dans un restaurant près du lac Michigan. En les voyant, il imagine leur histoire personnelle et comment ils se sont unis. C'est pratiquement un bon début pour un atelier d'écriture. Je vais maintenant vous lire quelques passages.
Rumors spread around in that Texas town, baby, about that shack outside. Brains, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go on.
shoes that hold out on the range. They got a lot of nice girls there. Number six!
Commencer quelques passages de légendes d'automne. Vers la fin du mois d'octobre 1914, trois frères partirent à cheval de Choteau, dans le Montana, en direction de la ville canadienne de Calgary, afin de s'engager pour aller combattre dans la Grande Guerre. Les États-Unis n'y entreraient qu'en 1917. Ils étaient accompagnés d'un vieil Indien Cheyenne qui se nommait celui qui ne donne qu'un seul coup de poignard, et que l'on appelait habituellement un coup. Il était chargé de ramener les chevaux au ranch, des bêtes de race que le père avait données à ses fils, parce qu'il ne trouvait pas de convenable qu'ils partent à la guerre sur des carnes. Un coup connaissait tous les raccourcis sillonnant le nord des Rocheuses et leur chemin traversait une contrée sauvage, éloignée des routes et des lieux habités. Ils étaient partis avant l'aube et leur père se tenait dans l'écurie, une lampe à la main, revêtu de sa longue cape en peau de bison. Il s'était étreint en silence et le souffle des adieux formait de petites nuées de condensation qui s'élevaient vers les poutres du toit. Aux premières lueurs du jour, un vent brutal souffla dans les trembles jaunies et les feuilles tourbillonnées vers les hautes pâtures pour aller s'amasser en blocs compacts sur les buissons le long des berges de la première rivière qu'ils traversèrent à gué. Des feuilles de peupliers blessées par les remous demeuraient collées contre les rochers. Ils s'arrêtèrent pour observer un nègre repoussé vers la vallée par les premières neiges qui coiffaient les montagnes. L'oiseau tentait, sans succès, de trouver une proie dans un vol de canards au-dessus des forêts. Malgré les flancs escarpés de la vallée, ils entendaient encore le vent rugir dans les rochers qui dominaient la ligne des arbres. Vers midi, ils arrivèrent sur une crête et se retournèrent pour poser un dernier regard sur leur ranch. Plus exactement, ils contemplèrent la vue et le vent soufflait un air si pur que le ranch leur paraissait très proche, malgré les 30 kilomètres qui les en séparaient. Seul un coup ne regarda pas derrière lui. Il se méfiait de ces manifestations de sentimentalité et garda l'œil dédaigneusement pointé sur sa route lorsqu'ils traversèrent la voie de chemin de fer du North Pacific. Un peu plus loin, ils entendirent tous les cris douloureux d'un loup et firent semblant de ne pas l'avoir perçu, car la plainte d'un loup entendu à midi est le pire des présages. Ils mangèrent sans mettre pied à terre, comme pour s'éloigner de cet écho funeste, refusant le confort d'une halte dans une clairière où le hurlement prémonitoire risquait à nouveau de descendre sur eux. Alfred, l'aîné, dit une prière, tandis que Tristan, le puîné, éprenait sa monture en jurant afin de dépasser son frère, et un coup, Samuel, le cadet, caracolé derrière en posant un regard fasciné sur la flore et la faune. Il était le favori de la famille, et à 18 ans, il comptait déjà une année d'études en anthropologie à Harvard. Un coup s'arrêta son cheval à l'extrémité d'une vaste prairie pour attendre Samuel, et il éprouva un choc désagréable en le voyant émerger des bois, tenant le crâne blanchi d'un buffle sur son visage. Son rire sonore retentissait sur toute la prairie. Au troisième jour de leur voyage, le vent s'apaisa, et l'air se réchauffa sous un soleil pâli par les brumes de l'automne. Tristan abattit un cerf, au grand dégoût de Samuel, qui n'en mangea que par pure politesse. Comme à son habitude, Alfred demeurait méditatif et distant, se demandant encore comment un coup et Tristan pouvaient manger autant de viande. Un coup et Tristan mangèrent le foie en premier. Samuel déclara en riant qu'il était aussi omnivore que les autres, mais qu'il finirait certainement dans la peau d'un végétarien, ce qui ne serait jamais le cas de Tristan. Son frère lui apparaissait comme un authentique carnivore qui se gavait de réserve et pouvait ensuite dormir, chevaucher ou chasser les putes pendant des journées entières. Tristan donna le reste de la carcasse à un paysan qui leur offrait l'hospitalité de sa misérable grange pour la nuit. Les trois préféraient d'ailleurs la grange aux odeurs épaisses qui régnaient dans la ferme pleine d'enfants. Le paysan ignorait qu'une guerre faisait rage en Europe. En fait, il n'était même pas certain de savoir où se trouvait exactement l'Europe. Au cours du dîner, Samuel se découvrit un penchant pour la fille aînée de la maison et lui récita un vers de Heinrich Heine en allemand, la langue d'origine du paysan. Celui-ci éclata de rire tandis que la mère et la fille quittaient la table en rougissant d'embarras. À l'aube, lorsqu'il fut temps de repartir, la fille donna à Samuel une écharpe de laine tricotée durant la nuit. Samuel lui baisa la main, promit d'écrire et lui remit sa montre de gousset en or en lui demandant de la garder jusqu'à son retour. Un coup observait la scène depuis le corral où il scellait les chevaux. Il souleva la selle de Samuel comme si elle était chargée du poids de la fatalité, cette fatalité qui appartient si entièrement aux plus sombres profondeurs de l'âme féminine. Pandora, la Méduse, les Bracantes, les Furies, autant de femelles que leur divinité ne retranche pas des fatalités de leur sexe. Mais il n'était pas aussi impossible de raisonner avec la mort que de peser la terre ou l'âme de la beauté. Les trois frères se retrouvent donc au cœur de la guerre de 14 en France, et donc évidemment en fonction de leur diplôme, chacun a un poste différent, et Tristan évidemment est au front. Et donc Samuel vient d'être tué. Et Tristan a décidé d'aller chercher son frère. Ils arrivèrent dans la forêt de châtaigniers aux environs de minuit. Ils passèrent la nuit, recroquevillés sous les arbres. À l'aube, ils rampèrent vers les 12 cadavres étendus dans la clairière et essuyèrent la fine souche de neige qui recouvrait leur visage. Tristan trouva le corps de Samuel et baigna de ses larmes les traits glacés de son frère. Le visage était gris, mais intact. La poitrine béante laissait apparaître la cage thoracique éclatée. À l'aide de son couteau de trappeur, Tristan détacha le cœur de Samuel et les hommes revinrent au camp. Noël fit fondre des chandelles dans une petite boîte de cartouches et nettoya et noya le cœur de Samuel dans la paraffine afin de le renvoyer dans le Montana pour qu'il y soit enterré. Un officier voulut les interrompre, mais il comprit qu'en intervenant dans cette cérémonie bizarre, il risquait fort de se faire étrangler. Lorsque la boîte fut enfin refermée, Tristan et Noël burent un litre entier de cognac volé quelques jours plus tôt dans une ferme. Puis, Tristan quitta la tente pour hurler les imprécations à la face de Dieu. Noël parvint à le calmer et à le ramener dans la tente pour l'obliger à prendre un peu de repos. Au matin, Tristan fut réveillé par un planton qui venait le chercher de la part d'Alfred. Cruellement, Tristan refusa de le suivre. Il ne voulait pas pleurer avec son frère. Il écrivit une lettre qu'il attacha à la boîte de cartouches. « Cher père, voici tout ce que je peux vous renvoyer de notre bien-aimé Samuel. J'ai le cœur brisé comme vous. Alfred ramènera la boîte et je sais que vous serez d'accord pour qu'elle soit ensevelie près de la source du canyon, à l'endroit où nous avons trouvé les grandes cornes de bélier, votre fils Tristan. » Puis Tristan fut saisi de folie, et il reste encore quelques vieux vétérans canadiens pour se souvenir de la sauvagerie de sa vengeance. Il ne put la mener jusqu'au bout, car il fut capturé par ses propres compagnons et retenu au camp. Tristan et Noël commencèrent par feindre à s'intéresser à leur métier de soldat et ils se portèrent volontaires pour toutes les reconnaissances de nuit. Trois jours plus tard, le piquet central de leur tente était orné de 7 scalps blonds en train de sécher. La quatrième nuit, Noël fut mortellement touché et Tristan ramena le corps de son ami couché en travers de sa selle. Il traversa une foule de soldats silencieux, chevaucha jusqu'à sa tente, allongea Noël sur son lit de camp et tenta de verser du cognac dans sa propre gorge morte. Puis il entonna un chant de deuil Cheyenne que un coup lui avait appris et les soldats vinrent se rassembler autour de la tente. On amena Alfred sur une civière afin qu'il essaie de ramener son frère à la raison. Lorsque les brancardiers ouvrirent le rabat de la tente, ils virent que Tristan avait disposé les scalps en collier et croisé son couteau de trappeur et son fusil sur la poitrine du cadavre. et lui passèrent une camisole de force et l'envoyèrent dans un hôpital de Paris, d'où il s'évada moins d'une semaine plus tard. Maintenant, un passage de Sorcier. Constatant qu'il était en avance, Sorcier arrêta sa voiture sur le bas-côté de la route, à 2 kilomètres de la maison de Rabanne. Bien qu'elle n'y soit venue qu'une seule fois et de nuit, Diana lui avait tracé un itinéraire très précis. Il ferma les yeux et s'efforça de respirer lentement afin de se donner une constance. Mais cela ne servait à rien. Il demeurait nerveux et inquiet. Diana le taquinait souvent sur cette manie de composer ses attitudes à l'avance. Selon elle, il passait tant de temps à répéter les actes de son existence qu'il ne lui restait presque plus le loisir de les vivre. En revanche, elle ignorait que Sorcier poussait son désir de perfection jusqu'à corriger ses scénarios après coup, les polissant et les modifiant jusqu'à ce qu'il consente à prendre une tournure qui lui soit agréable. Et là, installé dans sa voiture, il se laissait à nouveau dériver vers le rêve. Chacun sait pourtant que les rêves et les cauchemars ne reposent sur rien de concret. Il saisit le rétroviseur pour se regarder, mais ses mains tremblaient tellement qu'il lui fallut un bon moment avant de parvenir à ajuster le miroir. Son père avait raison, il n'était pas fait pour être détective. Les romans policiers ne l'intéressaient même pas. Il consulta sa montre et repartit quelques minutes plus tard. Il arriva chez Rabanne. La maison était impressionnante par ses dimensions et son cadre, mais elle était d'un style Bauhaus qui ne répondait guère au goût de Sorcier. Elle était située en pleine forêt, à l'extrémité d'une longue allée. Il n'y avait pas de pelouse et un grand arbre se dressait à proximité dangereuse du toit. 2 énormes chiens Rottweiler gambadaient devant la maison. Mais lorsque Sorcier vint se ranger dans le parking, ils manifestèrent férocement l'intention de l'empêcher de sortir de sa voiture. Effrayé, il remonta sa vitre à toute vitesse. Les chiens des autres figuraient également en bonne place sur la liste des sujets de frayeur, surtout lorsqu'ils étaient de grande taille. Rabanne sortit de la maison et souffla dans un sifflet à ultrasons. Les chiens vinrent aussitôt se ranger à ses côtés. Sorcier sortit de la voiture avec méfiance et s'approcha à petits pas. Rabanne prononça quelque chose en allemand et lui tendit 2 biscuits. Dans sa confusion, Sorcier faillit les manger. « Dites-leur, mein Liebensch, mein Edelweiss, et donnez-leur les biscuits. » Sorcier s'exécuta, et les chiens changèrent complètement d'attitude, se mettant subitement à lui lécher les mains et les pans de sa veste. L'un d'eux alla même chercher une caresse d'écureuil assez pourrie qu'il offrit à Sorcier pour jouer. L'un d'eux alla même chercher une carcasse d'écureuil assez pourrie qu'il offrit à Sorcier pour jouer. Ce sont de véritables choups, originaires de la région de Cologne, dit Rabanne avec fierté. Je pensais que c'était des Rottweiler. Choups, ils sont spécialement dressés et savent obéir à plusieurs centaines d'ordres. Je veux qu'ils apprennent à vous connaître. Vous n'avez rien à craindre, jusqu'à 11 heures du soir. À 11 heures, un signal sonore se fait entendre et plus personne ne peut approcher de la maison sans risquer sa vie. Le lendemain, à 7 heures, un autre signal résonne et il désactive les chiens. Est-ce que c'est également valable pour vous? Bien sûr que non, je suis leur dieu. Je pourrais les étrangler et ils se laisseraient faire sans réagir. « Ça fait réfléchir, » murmura un Sorcier en écartant quelques sombres réflexions mystiques de son esprit. « Non, absolument pas, les chiens ne sont pas une source de réflexion pour moi, sauf dans les rapports qu'ils peuvent avoir avec leurs semblables. » À table, Sorcier se dit qu'il était probablement en train de déguster l'un des repas les plus exquis de son existence. Diana avait informé Rabanne de la passion de son mari pour la cuisine anglaise du Yorkshire, et celui-ci voyait défiler dans son assiette des tourtes de viande à la sauce aux huîtres, des rognons braisés à l'ancienne, des côtelettes de porc marinées, des filets de coq, accompagnés de tomates farcies et d'épinards frais. Le tout était arrosé d'un Bechtel 67 qui semblait sortir des caves du paradis. Sorcier plaignait le docteur qui, lui, devait se contenter d'un bol de céréales bouillies et d'eau glacée. Les imbéciles qui me servent de médecin prétendent que je suis affligé du cas de goutte le plus sévère qu'ils aient jamais rencontré. On me soigne à l'allopurinol, mais on ne m'autorise que 2 repas corrects par semaine. Si je triche, les douleurs sont terribles. C'est une existence irritante et il faut croire qu'elle me rend assez insupportable pour que ma femme ait choisi d'aller vivre en Floride. Cela me gêne de savourer ces merveilles sous vos yeux. Ne soyez pas bête, j'ai commandé ce repas pour vous. Il y a 10 ans, je pesais presque 140 kilos. À présent, je me maintiens aux environs de 75. Et malgré mes 60 ans passés, j'ai retrouvé toute ma vigueur sexuelle. Les gros mangeurs sont notoirement de mauvais amants. Balzac et Rasputin sont des exceptions à cette règle. C'est vrai, approuva sorcier, la bouffe et la baisse ne font pas bon ménage. Ça peut se dire en termes plus élégants, mais ça reste vrai. C'est alors que Rabanne jeta brusquement sa cuillère à la tête de sorcier. Nom de Dieu ! S'écria celui-ci en attrapant le couvert au vol. Je voulais seulement vérifier la rapidité de vos réflexes. C'est très très bien. Puis, tandis que sorcier se régalait d'une tarte aux myrtilles, suivie d'un café et d'une fine respectable, Rabban étudia minutieusement le rapport qui lui était soumis, son stylo pointant au-dessus du papier comme un oiseau de proie. Il ratura quelques mots, ajouta des modifications, signa les 2 exemplaires et les poussa vers sorcier. Excellent. J'ai ramené votre pourcentage à 17,5% afin que de vous démontrer que je ne suis meilleur homme qu'il n'y paraît. Pour commencer, votre minimum garanti sera de 45 000 $ par an. Cela correspond au salaire, un peu exagéré, que vous touchiez dans votre précédent emploi. Si vous le trouvez exagéré, vous pouvez le réduire, déclara sorcier avec hauteur en prenant une gorgée de cognac. Hors de question. Je n'engagerai les services d'un homme disposé à gagner moins qu'avant. Il faut toujours progresser. Nous commencerons par un contrat d'un an. Votre salaire vous sera versé en argent liquide. Il est de la plus haute importance que nos rapports restent secrets. Oui, monsieur. Ne m'appelez pas monsieur. Docteur Rabban suffira. D'accord, docteur Rabban. Un extrait de « Un bon jour pour mourir ». L'eau était aussi claire qu'à Bimini. En plongeant, je pouvais voir très nettement le corps de Sylvia. Et cette vision avait fait surgir le souvenir déplaisant de ces photos de nus aquatiques que je regardais dans Playboy quand j'étais jeune. Et quand on vivait dans ces forêts protestantes où il ne se passe jamais rien, ces photos faisaient de terribles ravages. Ces filles superbes, jouant toutes nues dans l'eau et le reflet du soleil, quand le regard de l'écolier de 15 ans ne voit autour de lui que la neige. Il se débrouille mal en géométrie, et pourtant les théorèmes sont imprimés en rouge. Le magazine est passé à travers les rangs de la classe jusqu'à lui. C'est un véritable continent de corps en chaleur, et il sent son membre se redresser sous le bureau. Sa petite amie, qui est assise de l'autre côté de l'allée, le regarde d'un air désapprobateur. Elle est méthodiste, et il a peu de chance qu'elle folâtre un jour ainsi, à poil, dans le soleil. Il se sent floué de ne pas être ailleurs. Tim allume un gros joint, qu'il a tiré de sa poche, de sa chemise, et nous le passons de l'un à l'autre. Et pour une fois, Sylvia s'en prend une large bouffée. Je préférerais de beaucoup un bon margarita. J'ai soif de quelque chose de plus fort que l'autre source. Moi, je prendrais bien une bière et un hot dog, dit Tim. À ce moment, il remarque que le pauvre Tito qui est assis de l'autre côté de Sylvia, la dévore des yeux et que son sexe est en érection. Attention, Sylvia, il va te violer. Elle lance un regard à Tito et rougit. Il se relève brusquement, enfile son pantalon et s'éloigne sur l'autre rive du plan d'eau. Il fait semblant de s'intéresser à la végétation. Sylvia se met à glousser. « Les Mexicains aiment les femmes aux cheveux clairs, » dis-je sentencieusement. Tito me lance un regard chargé de haine. Il me rappelle mon chien qui, à peine sur le pas de la maison, se saisissait d'un bâton, d'une corde à sauter ou d'une balle, et vous regardez d'un air fixe et arrogant. Sylvia se penche en avant et observe ses orteils. Tim passe la main sous ses fesses en croisant les doigts. Elle se relève d'un bond et lui fait face. Il la repousse dans l'eau. « Espèce de salaud ! Je ne voulais pas me mouiller les cheveux !» Sylvia écarte ses cheveux des yeux. Elle est debout, dans l'eau à mi-cuisse. Derrière elle, Tito se tient dans l'ombre d'une corniche rocheuse. L'espace d'un moment, la scène est figée devant moi, comme l'image se fixe parfois sur l'écran dans les films de la nouvelle vague. Sylvia, relevant ses cheveux, les épaules, le ventre et les hanches couverts de gouttelettes qui scintillent comme de petits miroirs dans la lumière du soleil. L'eau claire et bleue, et ses jambes fuyantes sous la surface de l'eau, et cette silhouette dans l'ombre derrière elle, si résolument ridicule. Je ressentis une vague pitié à mon propre égard. Cette scène ne pouvait être effacée. C'était tout à tout jamais une trace dans mes mémoires, et j'imaginais que dans 20 ans, je pourrais encore me remémorer cette vision, même si elle était plate et immobile comme un tableau. Naturellement, les couleurs se faneraient un peu, et les violents contrastes d'ombre et de lumière auraient sans doute disparu. Même cette ombre légère entre la hanche et l'aine, quand elle se détournait du soleil, pivotant doucement sur elle-même au lieu de tourner simplement les épaules, il y avait dans cette image une impression fugace de liberté, un bonheur évident, mais proche de la torture. Tandis qu'elle était là, se séchant au soleil, nous nous rhabillâmes en parlant de ce que nous avions envie de manger ou de boire. Puis nous regardâmes Sylvia s'habiller. Tim décréta que nous devrions remonter vers Toscane. Nous redescendîmes lentement vers la voiture. Sylvia s'était faite une ampoule sous la lanière de sa sandale. Tito déchira son mouchoir pour en entourer la lanière. J'étais un peu abruti et mes jambes vacillaient de manière déplaisante à chaque pas. La seconde nuit à Douglas et Aga Pietra s'était mieux déroulée que la première. Certains épisodes, pourtant, ne pourraient être décrits comme autrement qu'épouvantables. Nous avions fait le tour de toutes les boîtes de la place, traînant pendant plus de 2 heures dans l'une d'entre elles, spécialisée dans les travestis. De faux travestis, en fait, car ce n'étaient que des homosexuels vêtus, plutôt joliment d'ailleurs, en jeunes femmes. Sylvia avait bien senti que quelque chose clochait, mais elle fut complètement ahurie en apprenant que ce n'étaient pas des femmes. Tout le monde la regardait d'un œil critique, ce qui la mit plutôt mal à l'aise. L'une des filles s'assit à notre table et but un verre avec nous. Elle caressa de la main la jambe de Tim jusqu'au moment où elle sentit qu'il était à 2 doigts de la culbuter. Elle se mit alors à lui roucouler dans l'oreille puis l'embrassa. Sylvia se leva pour sortir. Je la suivis et nous restâmes un moment sous l'auvent du bar à regarder distraitement les lumières des douzaines de boîtes alentour avec leurs orchestres discordants de maracas et leurs jukebox, dont la musique se confondait presque harmonieusement. La nuit était très chaude et charriait des effluves désagréables. J'essayais de lui expliquer qu'il était impensable que Tim cherche à la blesser volontairement, qu'il ne faisait que suivre ses impulsions et ne pensait qu'à son plaisir, même si ce plaisir pouvait la choquer parfois par son caractère un peu étrange. Je commençais à me sentir un peu coupable. Sans moi, nous n'aurions jamais mis les pieds dans ce bordel, ni même à Agua Pietra, au cours de cette virée absurde pour aller faire sauter un barrage. Tim s'était engagé dans cette mission sur un coup de tête, comme d'habitude. J'étais le cerveau dérangé et maléfique qui avait conçu ce projet imbécile. Tim se serait peut-être lassé de la dope et, après un moment d'errance, il serait sans doute retourné à elle. Ce que nous étions en train de faire n'arrangeait guère les choses. Il était heureux, follement heureux, et il était visible qu'il n'avait aucune envie que ça cesse. Tandis que nous discutions, je compris pourquoi elle me plaisait tant, du moins en partie. C'était une sorte de relique. Elle me faisait penser à ces filles de la campagne, relativement frustes, avec qui j'allais au lycée 10 ans plus tôt. Et puis, elle était désespérément féminine. Nous étions en train de la mettre en morceaux, et elle continuait à marcher avec nous comme si elle n'avait aucun caractère ou comme si son seul souci était de plaire. Que pouvait-elle faire d'autre ? Je l'embrassais furtivement sur la joue, mon bras autour de sa taille, ses yeux étaient humides, et je lui dis qu'elle ne pouvait pas recommencer à pleurer, et que cela ne ferait qu'empirer la situation. Un groupe d'autochtones nous observait. Nous décidâmes de retourner dans le bar. Tim était maintenant seul, à table, et se leva pour nous rejoindre. Maintenant, un passage de Wolf. C'est un récit de souvenirs entremêlés de passages réels. Les souvenirs viennent quand on est seul au fond des bois. 6 ans plus tard, j'ai appris qu'elle était mariée. Et 3 ans après, j'étais passé en voiture devant chez elle à Worcester, Massachusetts. J'étais allé acheter des cigarettes à l'épicerie du coin en espérant la rencontrer par hasard, même si elle devait pousser devant elle un landau avec des quadrupés. J'étais stupéfié de me sentir trembler intérieurement à l'idée de me retrouver après tant d'années si près d'elle, à peut-être moins de 100 mètres d'elle, mais elle ne s'était pas montrée et j'avais repris la route. Ma tante, à 3 sous, commençait à prendre l'eau, là où je l'avais éraflée. C'est le problème de la toile. Je pensais que la tante de Ninon, au prix exorbitant que je m'achèterais un jour, en une seule pièce avec plancher 2,5 kg au lieu de ces 10 kg de toile qui moisissaient. Mais le temps s'était réchauffé et la brise s'était faite douce et légère. Par l'entrebâillure, je vis à une trentaine de mètres une biche qui s'approchait du ruisseau pour y boire dans le crépuscule, animal diurne. Pourtant, il n'y avait pas de faune au bord de l'eau dans cette fin d'après-midi. Elle était dodue, son pelage d'été d'un brun roux soutenu. Lorsqu'elle flaira mon odeur, elle bondit sans bruit dans les sous-bois. Le dessous de sa queue faisait une tache blanche qui dansait contre le vert des buissons. Quand la pluie s'arrêta enfin, je me levai, fis cuire des haricots avec des oignons hachés, auxquels j'ajoutai le contenu d'une boîte de corned beef argentin à l'aspect malsain. Il allait probablement falloir m'abattre comme une bête atteinte de la fièvre acteuse, m'enterrer avec un bulldozer que Dieu conduirait, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil mordorées, comme dans le plus sauvage d'entre tous, animal à abattre. Le matin, le soleil brillait et il faisait chaud. Aussi décidai-je de chercher la voiture, d'y prendre le reste de mes provisions et de résister à la tentation de parcourir 80 km, 160 aller-retour, pour 4 ou 5 bouteilles de whisky et même plus. Avec l'alcool, je serais devenu pleurnichard et maladroit, capable de me couper un orteil avec la hache, de rouler dans un marécage empoisonné ou d'avoir une crampe en plein milieu du lac et de me noyer. Je voulais retourner au lac. De l'autre côté, au loin, je croyais avoir vu ce qui devait être un nid de balbuzards s'élevant au-dessus des roseaux sur une souche de pin. Il ne restait plus beaucoup de balbuzards et je tenais à en voir un de près. Je vais vous lire le prologue de Nord Michigan. Nous sommes en 1956. Imaginez une douce soirée à la fin du mois de juin dans une ville en bord de mer. Disons Eureka en Californie ou bien Coos Bay dans l'Oregon, ou alors une nuit chaude et moite à Kess Largo ou dans le Sea Island. Ces joyaux couleur de pinède posés le long de la côte atlantique à partir de Savannah. Vous êtes dans un restaurant sur le point de commander du vin et quelques fruits de mer. Entre un couple. Tous les regards se tournent vers ce couple parce qu'à l'évidence, il ne s'agit pas d'un simple couple de touristes. La femme est très séduisante et son teint mat trahit sans doute des origines indiennes. Elle paraît timide et hésitante, mais chaleureuse. Elle attend visiblement qu'on vienne s'occuper d'elle. Elle doit avoir 40 ans, à peine, et dégage une impression de parfaite santé. Un œil de couturière remarquerait que ses vêtements sont simples, mais bien coupés, et probablement confectionnés de ses propres mains. Elle suit l'homme de près, mais marque une certaine hésitation lorsque celui-ci choisit une table sans attendre le maître d'hôtel. L'homme marche avec raideur en s'appuyant sur une canne qui prend le relais de sa jambe invalide. Mais cela n'a guère d'importance dans notre processus d'identification. Il porte une chemise d'été à manches courtes, ses bras bronzés semblent étonnamment puissants et musclés, mais sa chemise laisse deviner 3 cm de peau blanche au-dessus du coude, et l'encolure s'ouvre sur un triangle pâle qui contraste avec la peau du cou, tannée comme un vieux cuir. Ses cheveux sont coupés courts, dégageant bien les oreilles avec un léger cran dans la nuque. L'homme jette un regard circulaire dans le restaurant avec une expression ouverte sur le visage et l'amorce d'un sourire. La serveuse qui a pris sa commande apporte un whisky et une bouteille de bière ainsi qu'un cocktail pour la femme. La conversation et les gestes de l'homme prennent progressivement une tournure plus animée et il semble par moments oublier qu'il est dans un lieu public. Il s'attaque en riant à un plateau d'huîtres. L'homme se décoiffe en se grattant la tête. Elle sourit et tend le bras à travers la table pour le recoiffer fébrilement avec la paume de sa main. Il examine de près une coquille d'huile, frottant avec curiosité sa surface rugueuse. Ses mains dégagent une impression de force magnifiée par la fragilité du coquillage qu'elles tiennent. Il remplit sa chemise de toute sa corpulence. Il a la carrure d'un homme d'âge mûr qui aurait travaillé dur toute sa vie dans une carrière de pierre ou sur des chantiers de construction. Son visage est ouvert et expressif. La serveuse les aime bien et retournent à leur table plus souvent que nécessaire pour profiter de leur compagnie agréable. L'homme lui pose des questions sur l'océan auxquelles elle ne peut répondre. Il se retourne en tordant le cou pour essayer de voir l'eau à travers les vitres sombres. L'homme commande 2 desserts, la femme est joviale et diserte, plutôt à son aise dans un environnement qui lui est pourtant étranger. L'excitation monte à nouveau lorsque vient la question du pourboire. L'homme pioche dans son porte-monnaie, lui se ravise et décide de laisser un billet d'1 dollar. La femme lève les yeux et lui sourit. Après tout, ils sont en vacances. Quand ils eurent réglé la note, le directeur du restaurant pensa qu'il était sans doute charpentier, mais il n'en était pas sûr. Ceux qui les avaient observés dans la salle, en mangeant plus lentement qu'eux, savaient à quoi s'en tenir. C'était un fermier et sa femme, et probablement du Middle West, car les fermiers de cette région, qui sont des éleveurs, ont tendance à s'habiller d'une manière plus voyante que ceux de l'Est, qui ont assez d'argent pour s'offrir une garde-robe de voyage plus raffinée. Une fois dehors, sur les planches du front de mer, le couple se détendit et on aurait pu les croire en lune de miel. La canne de l'homme se coinça entre 2 barres de bois. Elle rit. Ils se penchèrent contre une rambarde de la brise respirant l'air iodé. C'était la marée basse. Ils descendirent les marches et traversèrent la plage étroite jusqu'à la mer. Elle resta en arrière tandis qu'il avançait jusqu'à mouiller la semelle de ses chaussures. Il pointa sa canne vers l'océan, fixant cette étendue avec la fascination qu'il éprouvait étant enfant pour la lumière des paysages nordiques. Avant de clore avec la consigne, voici un groupe indien Xit. Maintenant, on arrive à la consigne du jour. En se rappelant du prologue de Nord Michigan, décrivez une scène que vous avez vécue au restaurant et en imaginez la suite. Si vous le désirez, envoyez vos questions, vos textes sur l'adresse dédiée à l'émission, lire et écrire, tout attaché, @studiosef.fr. Cette émission est diffusé le deuxième et le quatrième lundi du mois de 14h à 15h. Bien entendu, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site studiosef.fr. Merci et au mois prochain.